grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi 14 octobre 2014. Bienvenue. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui vous parle des conclusions du dernier Conseil de sécurité sur le Mali. Voici les trois axes de ce débat. Les conclusions du dernier Conseil de sécurité, nous en débattrons donc dans le premier axe. Y a-t-il une divergence de vue entre la communauté internationale et le gouvernement malien sera donc la deuxième partie. Et la troisième partie, les violences au nord menacent-elles la paix dans le pays? Nos invités pour débattre de ces question, Boubacar Touré, du parti présidentiel RPM, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, et Baba Dakono, du mouvement Plus Jamais Ça, représentant de la société civile. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique. Lors donc de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les représentants des pays du Conseil sont restés divisés sur la question du déploiement d'une force d'intervention au nord. Selon le général Kazoura de la MINUSMA se trouve désormais en situation de lutte contre le terrorisme. Ce contexte n'est pas prévu dans son mandat. Elle n'a pas reçu de formation, le matériel, les moyens logistiques et les renseignements nécessaires pour faire face à une telle situation. Le patron des forces onusiennes au Mali avertit, si le rôle de la MINUSMA doit évoluer du maintien de la paix à la lutte contre le terrorisme, il est urgent de le planifier. Alors, je pense que nous sommes en contact avec Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Ousmane Cornio, bonjour.
Oui, bonjour, Famoussa.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette réunion?
Oui, ce qu'il faut comprendre de cette réunion, c'est qu'il faut remonter la genèse de la création de la MINUSMA. Arrêté au moment où la MINUSMA s'est créée, c'est que il y avait l'opération Serval qui devait s'occuper des aspects de lutte contre le terrorisme et de lutte contre les djihadistes. Et puis aussi, dans la zone, il y avait les forces armées maliennes qui connaissaient le terrain et qui opéraient en même temps que la MINUSMA. Donc il y avait un certain nombre de mandats et de missions qui n'étaient pas dévolus à la MINUSMA et qui, brusquement, à partir des derniers événements, il se trouve sur le champ du théâtre. Non seulement la MINUSMA a diminué, mais là, comment ça s'appelle, l'opération Serval, qui s'est transformée en opération Barkhane, a diminué son personnel. Et puis ensuite, l'armée malienne n'est plus sur le terrain, qui fait qu'ils sont tous devant le fait accompli. D'acteurs, ils deviennent maintenant des groupes cibles. Et la position actuelle ne correspond pas vraiment au mandat qu'on les a donné. Ils ont dit exact, M. Lalissou l'a dit, et l'intervention de notre ministre des Affaires étrangères et son cri de cœur correspond exactement aux réponses à la situation. Mais je crois que la solution doit être recherchée autrement. Il ne peut pas y avoir seulement des forces étrangères pour s'occuper de cette histoire dans le nord du Mali. Il faut que l'armée malienne intervienne. Je crois que ce sont des conditions sur lesquelles il faut aussi, et je crois que c'est ça qui divise aussi les acteurs. C'est de mettre seulement la MINUSMA sur le chantier, sur le front, alors que l'opération Barkhane a diminué ses hommes, et aussi l'armée malienne est absente. Et il faut absolument la coordination de ces trois acteurs pour qu'on puisse venir à bout. L'armée, la MINUSMA a bien raison que son mandat actuel ne correspond pas à ce qu'elle est en train de faire actuellement.
Alors, merci beaucoup Ousmane Cornio. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Boubacar Touré du RPM est également avec moi dans ce studio. Boubacar Touré, y a-t-il une volonté nouvelle de la part de la communauté internationale de faire face à cette situation du terrorisme dans le nord du Mali?
Je commencerai toujours par présenter mes condoléances et souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes au nord Mali, que ce soit des forces armées maliennes ou des forces armées des Nations Unies pour la paix. Et après cela, par rapport à votre question, est-ce qu'il y a
une volonté nouvelle?
Une volonté nouvelle? Bon, j'espère bien que de la contradiction jaillira des idées heureuses pour la paix et la tranquillité au nord Mali. Comme le spécialiste le disait, en essayant de faire un tableau, ce tableau n'est pas très reluisant, mais le tableau est suffisamment indicatif. une armée qui était en sous-équipement moral et matériel face aux narcotrafiquants. Une grande partie du Mali a été soumise à leur dictat. La volonté française d'accompagner le Mali en quelques heures, l'intervention ayant commencé à Kona, le résultat enregistré en moins d'un mois d'intervention, les forces armées maliennes aux côtés de l'opération Serval, on a tous connu et vu le résultat. En un moment donné, face à des inquiétudes, l'armée malienne s'est arrêtée dans la démarche, dans le processus lancé avec Serval. Tout le monde a pensé que le verre est hors du fruit. Mais certes, il y avait d'autres intérêts, notamment des otages français dont il fallait trouver des solutions. Le MNLA a peut-être un moment été une solution éventuelle aux yeux de nos amis de la France. Le résultat aujourd'hui, on connaît aujourd'hui le résultat. Un autre exemple qui est mesurable, à travers Barkhane, en rapport avec les forces armées du Niger, des convois lourdement armés ont été identifiés et mis en hors d'état de nuire.
Neutralisés.
Donc, du coup, la solution est connue. Quand les Nations Unies arrivent comme force d'interposition, force de maintien de la paix commence d'abord par ta capacité de te sécuriser. Et la faiblesse de la chaîne a été enregistrée quand la sécurité de l'AMUNISMA devait être assurée par Serval à effectif réduit, qui finalement a quitté la scène pour faire la mue vers Barkhane, mais sur une plus grande surface, superficie, concernant plusieurs pays. Mais malgré cela, l'état d'avancement aujourd'hui de la technologie, la maîtrise de l'information peut faire en sorte que la guerre aujourd'hui ou contenir des rebelles trafiquants, narcotrafiquants, et la solution passe d'abord par les renseignements et des renseignements, les moyens appropriés d'intervention. Quand l'AMUNISMA arrive sans ces moyens-là, et le verre étant resté dans un coin du fruit, avec ses mues enregistrées entre les différents groupes armés selon les circonstances, il va de soi
que, ça
que l'AMUNISMA, n'étant pas formé, organisé, équipé en fonction de la nouvelle menace ou de la menace qui s'était tapie juste de façon circonstancielle. C'est clair et net. Aujourd'hui, l'ONU connaît également la solution parce qu'au Congo, nous avions vu, force de paix, des années durant, la paix n'a pas été obtenue. C'est quand ils ont musclé la mission des représentants des forces armées des Nations Unies
qu'on est arrivé à
des débuts de solution. Donc la solution, en fait, est connue. Aujourd'hui, qu'il y ait des contradictions, c'est déjà positif que le débat soit posé en termes, revoir, adapter l'équipement, la mission au nouveau environnement créé par le ver qui était en dormance dans le fruit, qui se réveille en assassinant lâchement des
soldats
citoyens
de la paix.
Alors Ousmane Kornio, nous voyons dans les propos du général Kazura de la MINUSMA que nous assistons à un véritable cri de cœur et à un plaidoyer en faveur du durcissement des moyens de la MINUSMA. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour convaincre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour justement redéployer ou bien renforcer les moyens de la MINUSMA au Mali?
Oui, moi je ne pense pas que le retardement de la décision au niveau des Nations Unies soit relatif à c'est-à-dire au manque de moyens. Parce que quels que soient les moyens qu'on donne à l'aménagement, il faut leur donner un mandat. Or, je ne pense pas que le mandat de l'aménagement puisse être de défendre le territoire du Mali en l'absence des forces armées maliennes. J'ai l'impression, moi, de mon avis, que le retard est d'attendre les résultats des pourparlers d'Alger pour que, ensemble, les forces armées maliennes et les groupes armés, et qui se disent aussi
politique
pour l'intégrité territoriale, et l'aménagement accompagné de l'opération Barkhane, ensemble, que tout le monde fasse face à l'ennemi commun qui sont les djihadistes. Et moi, j'ai de mon avis, c'est ce retard. Quels que soient les moyens qu'on va donner aujourd'hui à l'aménagement, l'aménagement tout seul ne peut rien faire dans ce désert-là.
Alors, pensez-vous qu'il y ait également d'autres causes géostratégiques qui font que les membres du Conseil de sécurité ne sont pas du même avis? Il y a d'autres intérêts géostratégiques?
Non, moi je ne pense vraiment pas. Moi, je pense simplement que je me mets à leur place, je dis, bon, écoutez, nous n'allons pas envoyer les forces d'aménagement et une force onusienne venir combattre dans un territoire en l'absence des acteurs principaux. Et soyons réalistes.
Mais si aujourd'hui, cette demande émane des autorités de Bamako?
Mais les autorités de Bamako n'ont pas à demander à ce que d'autres personnes viennent défendre le territoire à leur place.
Puisque c'est fait.
Moi, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est que de demander, autant qu'on donne les moyens à l'aménagement, autant qu'on permette à ce que l'aménagement soit épaulé par les forces armées maliennes. Et je crois qu'on doit aller dans ce sens. Ils n'ont pas demandé une force d'intervention rapide. Et en l'absence de l'armée malienne, moi je crois que c'est pas la raison.
Alors les orientations voulues, si elles sont acceptées aujourd'hui, vont-elles pouvoir se mettre en place rapidement?
Oui, les orientations, moi je dis que j'ai l'impression qu'on attend. Et c'est là, on va le voir d'ailleurs dans les rangs suivants des négociations à Alger, de faire en telle sorte que très rapidement, et que des conditions soient réunies pour que les forces armées maliennes et les groupes armés du Nord, que tout le monde puisse coaliser ses efforts avec l'aménagement qui serait doté encore plus de moyens, avec un mandat encore un peu plus robuste, de l'opération Serval qui, au nom de l'opération Barkhane qui commence aussi à se réveiller avec la dernière intercession des armes venant de Libye. Je crois que c'est la conjugaison de tout ceci-là qui pourra faire en telle sorte que l'opération globalement pourrait être positive. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse donner à l'aménagement des moyens, un autre mandat, tant que les forces locales ne puissent intervenir et participer et contribuer à sécuriser l'action. Parce que durablement, même si on leur donne l'opération Barkhane, l'aménagement. Même si aujourd'hui l'aménagement a des moyens, mais l'aménagement va avoir des moyens pour combattre les terroristes. Et après, il va laisser le territoire à qui? Le territoire n'est pas un territoire à conquérir et à abandonner. C'est un territoire à conquérir, à occuper. Pourquoi ne pas le faire avec les occupants? Les occupants, c'est les futurs occupants, c'est l'armée malienne qui doit être présente. Si les groupes armés maliennes, les groupes de rebelles sont nationalistes et qui veulent aussi défendre les territoires, mais écoutez, ensemble, on considère que les narcotrafiquants, les terroristes sont des ennemis communs, on les combat.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause et je vous redonne la parole, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook et Twitter également. N'oubliez surtout pas notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez consulter toutes nos productions depuis la création du studio. Alors, nous débattons aujourd'hui de cette question des conclusions du dernier conseil de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Nous sommes à la deuxième partie partie du débat avec cette question. Y a-t-il une divergence de vue entre la communauté internationale et le gouvernement malien? Nos invités pour ce débat, Bouakar Touré du RPM, parti de la majorité présidentielle, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Nous espérons avoir également l'avis de la société civile à travers Baba Dakono du mouvement Plus Jamais Ça. Alors Ousmane Cornio, avant de partir avec cette deuxième partie, est-ce que vous pouvez terminer vos propos sur justement cette relation des groupes armés avec les groupes terroristes, le distinguo qu'il faut faire aujourd'hui? Allez-y.
Oui, j'ai dit que si les groupes armés du Nord aujourd'hui ne sont pas de connivence avec les terroristes, comme ils le disent, ça veut dire que tout le monde considère que ces terroristes sont des ennemis communs. Et la sécurité de la zone, c'est une sécurité qui devrait être assurée par les groupes armés maliens et non, les groupes rebelles et les forces armées maliennes. Maintenant, tout ceci devrait être appuyé par la MINUSMA et Serval, et ce qui permettra en sorte de penser que même s'il y a des accords à Alger, l'accord va perdurer dans la mesure où le territoire serait malien. Mmh. À l'heure actuelle, moi je doute très fort que même s'il y a un accord de l'autre côté, d'autant plus que les groupes rebelles ne contrôlent pratiquement pas grand-chose, les forces armées maliennes sont absentes, même s'il y a un accord, et l'accord là va donner le territoire à qui? À la MINUSMA? Non. La MINUSMA a besoin d'être sécurisée. Nous avons suivi, j'ai suivi dans un article où un responsable français de l'opération Barkhane disait, bah, écoutez, nous avons notre modèle de notre stratégie de déplacement, de mobilité dans la zone, une stratégie qui permet d'avoir des renseignements sur les poses des mines, sur les explosifs, sur le déplacement des différentes menaces autour de nos forces. Mais ce sont des dispositions qui ne sont pas prévues au niveau de l'aménagement. L'aménagement n'est pas là pour tout le temps, l'aménagement est là pour une période temporaire. Et pour cette période temporaire-là, le relais doit être assuré. Ce relais ne peut être assuré que par les forces armées maliennes et les groupes armés qui, en perspective, s'il y a un accord qui est signé, vont travailler ensemble pour sécuriser la zone.
Alors, merci beaucoup Ousmane Cornio. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Alors, Boubacar Touré, nous entamons donc cette deuxième partie consacrée à cette question. Y a-t-il des divergences de vues entre la communauté internationale et le gouvernement malien? La requête de Bamako concernant justement le déploiement d'une force d'intervention rapide, la voix de Bamako a été portée par le ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité des Nations Unies, Abdoulaye Diop. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce qui ressort de cette réunion?
Non, d'autant plus que on parle de temps de réflexion pour harmoniser, coordonner et réajuster la mission de l'aménagement, mais pendant ce temps. Pendant combien de temps le temps va attendre? Mais avant de continuer avec cet aspect de votre question, et je rappelle quand même, dans la résolution 2164 du 25 juin 2014, au point 14, c'est clairement aussi écrit qu'à ce chapitre, on dit « décide en outre que le mandat de l'aménagement comprendra les tâches supplémentaires ci-après. Protection du personnel des Nations Unies. Et protéger le personnel, les installations et le matériel des Nations Unies et assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Mais les militaires en service aujourd'hui au niveau de l'aménagement sont considérés comme personnel des Nations Unies. Donc dans le mandat supplémentaire, cet article suffit pour que des conditions soient là au moins, qu'il y ait moins de victimes au niveau des forces des Nations Unies.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une difficulté pour l'aménagement, les soldats de l'aménagement, de faire le distinguo entre les djihadistes et la population civile? On se rappelle du grabuge qu'il y a eu quand les militaires tchadiens, le contingent tchadien de l'aménagement a voulu stopper certains membres, certains éléments qui se sont dits civils. à Kidal.
Cela va de soi. Les guérillas, c'est toujours ça. C'est pas comme les guerres classiques où les armées en face, il y a des tenues qui diffèrent. Et chacun fera en sorte même qu'il ne soit pas confondu à l'autre.
La solution doit être
confondue. Mais la solution, c'est avec l'implication des Maliens qui connaissent le terrain, qui connaissent les hommes, les acteurs intervenants. Mais je n'ai jamais compris que la participation de l'armée malienne est bloquée par une volonté du Mali. Je pense bien, quand Serval évoluait, Serval a évolué avec l'armée malienne. Parce que ce qui manque à l'armée malienne était à la disposition de Serval. Ce qui manque toujours à l'armée malienne, ce besoin de formation, d'équipement, de renseignement et de gestion des renseignements, si cela est à la disposition de la MINUSMA, de Barkhane, de n'importe quel autre ami du Mali, je crois qu'on ne demande pas aux amis de venir mourir à la place des Maliens sans la présence des Maliens. À ma connaissance et à ma compréhension, c'est pas ça le problème. Le problème, je dis, même le mandat initial de la MINUSMA à l'article 14 de la résolution 2164 du 25 juin, il est écrit qu'il y a un supplément, tâche supplémentaire, et la sécurisation des biens et personnels. Ces mêmes militaires étant des personnels des Nations Unies, ça veut dire qu'ils ont également le devoir d'assurer cette sécurité. Mais la contradiction, quand tu vas plus loin, des tâches sont confiées à l'armée française dans la même résolution. Je ne me rappelle plus exactement l'article afférent. C'est l'article 26, mandat des forces françaises. L'article 26 autorise l'armée française à user de tout moyen nécessaire dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement jusqu'à la fin du mandat confié à la MINUSMA. Mais quand on confie la sécurité d'une armée à une autre armée, mais c'est pourtant dans la même résolution. Ça veut dire qu'on a pensé qu'en des moments donnés, et l'adversité peut se retourner contre les amis de la paix qui sont venus accompagner et assister le Mali. Donc vraiment, avant une évaluation, une réorientation du mandat de la MINUSMA, déjà il y a des dispositions ici. Si l'équipement et tous les autres dispositifs étaient au rendez-vous, qu'on enregistre très peu de morts. Mais il n'y a jamais peu de morts. Quel que soit le nombre de morts, c'est regrettable.
Alors, Ousmane Cornio, vous êtes spécialiste des questions de sécurité aujourd'hui. Est-ce que l'armée malienne est assez formée pour pouvoir agir sur le terrain pour qu'on ne revive pas la même situation qu'il y a eu lors de la libération de Tombouctou? Les deux côtés n'étaient pas d'accord sur le fait qu'il y a eu des exactions dans le nord. Est-ce qu'on craint cette situation également à Kidal?
Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça l'objet de même le motif de l'absence de l'armée malienne. Tout le monde sait comment l'armée malienne a quitté le Nord. Il faut reconnaître avant les événements du 21, c'est le 21 mai, avant ces événements, on était presque au bout du tunnel. Et la manière dont l'armée malienne a été boutée a besoin d'abord d'être résolue avant que ça fasse la forme, avant de rentrer dans le front. On ne peut plus prendre l'armée malienne pour venir vous installer. Parce que dans la mesure où l'armée malienne a y été chassée, sous les yeux de l'aménagement, sous les yeux de l'opération Serval, qui est aujourd'hui Barkhane. Donc ce qu'il va falloir faire, moi je crois que c'est continuer à préparer l'armée malienne. Et essayer de résoudre le problème de fond de les conditions du retour de l'armée malienne. Faut-il attendre que les négociations terminent à Alger pour que les conditions de leur redéploiement soient définies? Ou bien faut-il d'ores et déjà, sous l'effet de la menace des djihadistes et des narcotrafiquants et des terroristes, qu'on se dise, bon, écoutez, il faut intervenir avant qu'il soit trop tard, dans la mesure où j'ai l'impression que c'est ce que les terroristes font. Ils se disent, bon, écoutez, si jamais nous nous taisons, nous les laissons se mettre d'accord à Alger, et ensuite, nous allons être l'ennemi commun, nous restons impréparés et dispersés, mais nous serons fragiles et nous serons faibles contre eux. Donc, continuons à les appeler, continuons à nous préparer et pour que le terrain soit à notre faveur dès qu'il y aura un accord. Quant à l'aménagement, il faut reconnaître l'aménagement, il peut avoir trois missions, peut avoir trois enjeux de sa présence. Se protéger, défendre, attaquer. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, on leur demande d'attaquer. Alors qu'ils n'ont même pas les moyens de se protéger et de se défendre. Et là, c'est une armée qui se protège, qui défend et qui attaque. C'est une armée qui a plein de droits d'intervenir. Or, l'aménagement n'est pas dans cette position d'une armée de conquête. Ils sont là pour une force d'interposition. Une force d'interposition, certes, va se protéger, certes, va essayer de se défendre, mais elle n'est pas là pour attaquer. Et c'est ça qu'on leur demande de faire aujourd'hui à l'absence des acteurs principaux qui sont les forces armées maliennes et puis le groupe rebelle qui se revendique de la zone.
Alors aujourd'hui, les groupes armés affirment que si on leur donnait le moyen aujourd'hui, ils peuvent sécuriser le Nord. Nous savons que cette question est rude aujourd'hui pour les groupes armés. Tous conviennent sur le fait qu'il faut aller vite aujourd'hui. La question qu'on est en droit de se poser, c'est que est-ce qu'il faut parler de la communauté internationale en oubliant les forces françaises ou il faut compter la force Barkhane dans le moule de la communauté internationale, Ousmane Kornio?
Oui, je crois que je l'ai dit lors d'un débat qu'en fait, je ne comprends pas la différence entre la mission de la force Barkhane et la mission MINUSMA. C'est la mesure où, par principe, les forces Barkhane sont chargées de sécuriser et d'accompagner les forces la MINUSMA. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un qui doit stabiliser. Il y a un autre qui doit protéger. Une armée qui doit protéger une autre armée, ce n'est pas clair. Moi, je crois que la mission devait être une mission commune. MINUSMA, Barkhane, armée malienne, et groupe rebelle, ensemble, tout le monde se dit, bon, écoutez, nous avons le devoir de lutter contre le terrorisme et on en fait un mandat commun, un mandat intégré, on mutualise nos forces et puis on essaie d'intervenir. Mais maintenant, la Barkhane n'avait que ses 3000 hommes dispersés, si je dis comme ça, sur toute la bande sahélo-saharienne, est assez faible pour intervenir de manière de proximité au niveau du Mali, comme Serval le faisait avant. Et je crois que la nouvelle mission de Barkhane, avec le mandat de la MINUSMA, n'ont pas été suffisamment bien réfléchi, bien intégrés, pour qu'il y ait une synergie d'action entre celui qui doit stabiliser et celui qui doit protéger.
Alors, certains membres du Conseil de sécurité, merci beaucoup Ousmane Kornio, certains membres du Conseil de sécurité estiment que le Mali doit prendre son destin en main. D'autres estiment que la menace dépasse le pays. Où trouver le juste milieu, Boubacar Touré, du RPM?
Mais écoutez, c'est clair et net que cette rébellion qui a pris une autre tournure, parce que le Mali a connu des mouvements de rébellion de avant l'indépendance et de l'indépendance à aujourd'hui, mais la tournure que prennent les événements aujourd'hui, c'est clair et net que c'est pas une rébellion par rapport au Mali, c'est une rébellion sinon même des narcotrafiquants cachés comme le cheval de Troie pour se donner de l'espace dans le Sahara malien, et de là, ça serait le point de départ de la déstabilisation de la sous-région.
Pensez-vous que ces groupes armés qui sont dans le Nord soient infiltrés aujourd'hui par les djihadistes?
Mais cela va de soi. Quand Serval, avec l'armée malienne, ont commencé à les chasser, c'est au nom du MNLA que cette opération presque s'est arrêtée net. Et on ne parlait plus de djihadistes à un moment donné, mais ces djihadistes sont repris. Et le MNLA soutient qu'ils sont cantonnés à Kidal et qu'ils assurent la sécurité à Kidal. Mais pourtant des obus sont tirés à moins de 10 km sur le camp de la MINUSMA à Kidal.
Alors pourquoi la communauté internationale n'a pas ces données-là?
Ah si, la communauté internationale a ces
données. Pensez-vous qu'elle pense
également? Ils sont mieux renseignés que vous et moi. Ça, c'est clair. Avec les systèmes satellitaires aujourd'hui, la guerre et la lutte contre le terrorisme ne peut et ne doit se faire
qu'à partir des moyens de l'avancée technologique que nous connaissons aujourd'hui au service des hommes sur le terrain.
Une pause et nous reviendrons.
Merci.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Une force d'intervention supplémentaire onusienne est-elle envisageable au nord après la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali à la demande du Mali? Cette question donc est le thème que nous débattons aujourd'hui dans le Grand Dialogue. Cette troisième partie est consacrée à cette question. Les violences au nord du Mali menacent-elles la paix dans le pays? Nos invités, Boubacar Touré du RPM, Rassemblement pour le Mali, parti de la majorité présidentielle, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, est au téléphone. Alors, cette troisième partie consacrée à cette question donc, les violences au nord du Mali menacent-elles la paix dans le pays, pardon? Peut-on estimer aujourd'hui le nombre de terroristes évoluant dans le nord du Mali, Ousmane Cornio?
Oui, c'est vrai que les violences aujourd'hui ont commencé à déconcentrer tout le monde. Dans la mesure où, initialement, on croyait que il y avait des acteurs qui étaient des terroristes. D'un autre côté, il y avait les rebelles qui avaient des prétentions indépendantistes. Et il y avait entre autres les acteurs du gouvernement, c'est-à-dire la partie gouvernementale de l'armée malienne. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, que ceux qui tirent les ficelles, c'est vraiment les narcotrafiquants. Moi, je suis d'avis, je rejoins M. Touré pour dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de rébellion actuellement au Nord. Non, le Mali, c'est une force d'occupation. On a été occupé par les narcotrafiquants. Et ceux qui sont liés, Ansardine, Moujao, comment ça s'appelle, MNLA, c'est des fabrications des narcotrafiquants.
Pourquoi cela n'est pas clair au niveau de la communauté internationale, aux yeux de la communauté?
Oui, moi j'ai l'impression que l'hésitation actuellement au niveau de la communauté internationale, c'est d'essayer de voir clair dans ça. Parce qu'on l'a dit, on l'aurait dit, les gens ne croyaient pas, mais au fur et à mesure, on constate aujourd'hui qu'en fait, ce ne sont pas ceux qui sont à Kidal qui sont en train de bombarder ou bien de poser des mines. Moi je ne suis pas sûr que ce sont eux. Ce sont les narcotrafiquants. Ce qui fait que ceux qui tiennent aujourd'hui le Nord, ce n'est pas le groupe rebelle. Et c'est même ceux qui empêchent, et ceux qui peuvent empêcher les forces armées maliennes d'aller sur le terrain, ce n'est pas le groupe rebelle. La vraie menace, ce n'est pas une rébellion. La vraie menace, c'est qu'il y a des forces qui ont des prétentions, qui ont des intentions et qui ont des actions terroristes et qu'ils veulent sauvegarder dans la zone. Et je crois que s'il y a un débat, s'il y a des contradictions au niveau des Nations Unies, c'est d'essayer de voir clair dans cette situation. Et je crois qu'on ne pourra voir clair dans cette situation que si les rebelles qui se disent, oh, écoutez, c'est nous qui détenons le Nord, et les forces gouvernementales, si tout le monde se met d'accord à Alger pour dire, bon, écoutez, nous sommes un seul pays, bon, voilà les systèmes de gestion qu'on va faire. Mais si après, on se rend compte que, malgré notre accord, aucun de nous n'est professeur et qu'il y a un autre occupant, on en reviendra à la raison. Je crois que l'hésitation, c'est d'essayer de voir un peu clair de, en réalité, qui commande le Nord, qui tient le Nord, qui peut continuer à gérer le Nord. Et après cette situation-là. Je crois que c'est ça qui fait le point de discorde. La partie malienne veut aller très rapidement pour dire, bon, écoutez, il faut qu'on envoie des forces d'intervention rapides. Il faut des forces d'intervention rapides. Ça veut dire qu'ils sont d'accord que ce n'est pas pour attaquer les rebelles, mais c'est pour attaquer les terroristes. Mais de l'autre côté, quand les rebelles croient que c'est eux qui tiennent la zone, c'est comme si on envoyait les forces d'intervention rapides. C'est pour non seulement attaquer et les rebelles, et les terroristes. Maintenant, il faut attendre de voir qu'on fasse la différence. Et la différence pourra se faire à partir des résolutions et des accords qui vont être dégagés d'Alger.
Alors, Boubacar Touré, je vois que vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Alors, Boubacar Touré, vous représentez le RPM, la partie présidentielle dans ce débat. Nous n'avons pas eu, malheureusement, la partie opposition dans ce débat, faute à cause du calendrier. Boubacar Touré, peut-on aujourd'hui dire que les activités terroristes compromettent la paix au Mali, et jusqu'à quel degré?
Mais cela va de soi.
Mais j'emboîte Monsieur Corgnon. Quand il dit qu'il faut attendre faire la différence, mais moi, dans ma tête, c'est clair, il n'y a pas de confusion. Hein. Les narcotrafiquants ont commencé cette opération. Certains indépendantistes ont été utilisés. Quand l'opération Serval avec l'armée a commencé à les bouter hors du Mali, ça trouvait déjà que les narcotrafiquants djihadistes, Acmi et autres, avaient déjà chassé le MNLA de la zone. La preuve aujourd'hui, le retrait de la réduction de l'effectif Serval, le retrait de Serval, la mue de Serval vers Barkhane, et les manques de les non-dispositions prises et l'ajustement du mandat de la MINUSMA, les mêmes pratiques djihadistes, narcotrafiquants, reviennent. Et pourtant, le MNLA et des groupes indépendantistes ou fédéralistes sont là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune confusion possible, mais simplement c'est un exercice de mue et un exercice de vase communicant selon que la situation qui arrange, on est en sardine, Acmi, djihadiste ou groupe armé revendiquant l'indépendance ou. Il n'y a aucune confusion possible. Ce désordre arrange qui? À partir de cette réponse, vous comprendrez que cette situation que nous vivons depuis maintenant quelques années, vous aurez l'explication. En maintenant les routes du Sahara, en contrôlant les routes du Sahara, c'est contrôler un commerce florissant, sans ordre ni loi, et tout prospère sur un tel terreau. C'est ce qui est entretenu. Et ça arrange qui?
Donc cela va au-delà du terrorisme. Le terrorisme n'est plus en cause. Quand on parle de narcotrafiquants, est-ce qu'il n'y a pas là un autre enjeu?
Mais si, il y a plusieurs enjeux. Mais si les narcos utilisent la technique du terrorisme, on ne peut pas les dissocier des terroristes. Si des groupes indépendantistes se cachent derrière des narcos et des terroristes, la distinction est très difficile. Sinon, aujourd'hui, et comme le disait Cognon tout de suite, que le MNLA qui est en discussion avec le gouvernement malien, se disant malien, d'accord pour l'intégrité territoriale, d'accord pour la laïcité, la République, moi je crois que le reste est discutable dans la décentralisation. Et une décentralisation qui, le Mali a fait un pas, mais la décentralisation c'est un phénomène qui va sur des années, des siècles. La France a commencé la décentralisation il y a 200 ans, mais à chaque étape ils améliorent, ils responsabilisent. Donc moi je pense, si la revendication est d'ordre gestion, du politique. Territoire, gestion politique de la question, la réponse est dans l'organisation actuelle du Mali qu'on peut perfectionner dans le cadre de la décentralisation qu'on a déjà connue. Il y a déjà eu des assises par rapport à cela. Mais maintenant, entretenir ce flou artistique, quelque part, cette confusion arrange certains. Et qui? À qui profite le crime? Tu as tout de suite la réponse. Sinon, et moi, je ne fais aucune confusion. En la matière, narcotrafiquants avec des pratiques terroristes égale terroristes. Indépendantistes se cachant derrière les narcotrafiquants avec la pratique terroriste sont terroristes. Mais les Maliens qui sont d'accord, même si à un moment donné ils ont pris des armes, les Maliens qui sont d'accord que l'intégrité territoriale n'est pas discutable, que la laïcité n'est pas discutable et que la gestion... améliorer, l'application améliorée de la décentralisation est une porte de sortie. Cela qui pose la problématique du développement, c'est certain qu'autour de la table, on a la solution. Mais cette guerre lancinante qui prend des formes monstrueuses à chaque étape de la négociation,
Sinon, cette recrudescence d'attaque tout de suite, c'est pour influencer les négociations, parce que les négociations n'aboutissent pas arrange certains.
Alors Ousmane Kornio, est-ce que la force Serval a surestimé l'influence des groupes armés politiques en leur confiant une partie du Nord qui aujourd'hui échappe à tout contrôle?
Oui, mais je crois que vous l'avez dit, au début, la force Serval, qui représente la France, espérait que les MNLA et ces groupes le pourraient être utiles pour libérer les otages qui étaient supposés être au Nord. Mais, donc, on a compris, c'est ce que tout le monde avait dit. Mais aujourd'hui, on est arrivé à l'évidence, en fait, que ça a été une erreur. C'était une erreur. Et on s'est trompé. Et les forces, les MRA ne contrôlent plus rien. Et toute l'opération qui s'est passée là-bas, ce sont les terroristes. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la différence entre les terroristes. Le terrorisme, c'est un mode d'action, un mode d'intervention pour pouvoir couvrir et accompagner les crimes organisés, c'est-à-dire l'économie criminelle. C'est un problème, un jeu d'intérêt. Il peut y avoir un jeu d'intérêt, il peut y avoir un jeu idéologique. Ce jeu d'intérêt, les narcotrafiquants, qui sont de connivence avec des forces étrangères, ont besoin de protéger leur économie. Et pour protéger leur économie, bon, écoutez, il faut créer des événements, il faut créer la terreur, il faut créer la peur, et il faut s'imposer sur le territoire, il faut conquérir le territoire.
Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui? Quel est l'enjeu, puisqu'il n'y a pas de pétrole jusqu'à l'heure où on parle dans le nord du Mali?
Mais l'enjeu, c'est l'espace. L'espace. On a vu le cargo de la cocaïne. C'est l'espace. Ça devient un espace sans loi ni foi et où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et le trafic de drogue, le trafic de cigarettes, le trafic de tout genre. Pas forcément pour le Mali. C'est-à-dire que simplement, c'est pour avoir l'espace, le contrôle de l'espace. Et je ne pense pas seulement que les intérêts soient seulement des intérêts narcotrafiquants maliens, non. C'est un réseau international, frontalier, transnational. Et ce problème n'est pas seulement un problème malien. Ce n'est pas seulement même un problème africain. C'est un problème mondial. On a vu comment les trafiquants de drogue, comment ces narcotrafiquants en Amérique latine sont organisés. Et ce sont des tentacules qui arrivent au Mali. Et le Mali et la zone sahélienne servent de relais, servent d'espace d'opération pour atteindre d'autres espaces, l'Europe, l'Amérique et l'Asie.
Alors Ousmane Kornio, dans tout ce désordre, comment aujourd'hui évaluer les chances de paix et de réconciliation dans le pays avec les pourparlers d'Alger qui doivent normalement commencer cette semaine?
Oui, ce que j'ai dit, que c'est pour ça que moi je suis vraiment pressé, que compte beaucoup de personnes, que les pourparlers d'Alger, je suis prêt à ce qu'elles aboutissent. Parce que dès qu'elles vont aboutir à un accord, quelle que soit la forme de l'accord, si l'intégrité territoriale, la laïcité, la forme républicaine n'est pas remise en cause, ça veut dire que nous convenons, et parti gouvernemental et groupe rebelle, que le Mali nous appartient à tous et nous devons de défendre le Mali. Alors maintenant, on saura s'ils sont aussi narcotrafiquants ou s'ils sont des groupes rebelles qui revendiquent.
Merci
et
beaucoup.
Et s'ils revendiquent quelque chose.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Et Boubacar Touré, juste deux mots. Vous avez une minute pour les chances de paix avec les activités terroristes. Y a-t-il des chances de paix?
Je dis bonne chance à l'équipe qui commence les négociations demain, qu'à tout moment, les envoyés, nos émissaires aient à l'esprit, le Mali n'est pas un héritage pour nous. Mais le Mali est quelque chose que nous devons léguer à nos enfants. À partir de là, tel qu'on a trouvé le Mali, c'est tel qu'on doit remettre à nos enfants. Simplement un développement harmonieux à l'intérieur. Qu'ils aient à tout instant cela à l'esprit. Je les souhaite bonne chance. Et les hommes de bonne foi, maliens et la communauté internationale, certes comprendront que Alger doit aboutir à la conclusion de paix durable dans le Mali tel qu'on l'a
de l'indépendance à aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Cela va dans l'intérêt et de la communauté internationale et du citoyen malien lambda.
Merci beaucoup.
Et autorité.
Merci également à Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Nous sommes donc au terme de cette émission qui débattait de trois axes, les conclusions du dernier Conseil de sécurité sur le Mali. Il y a une divergence de vue entre la communauté internationale et le gouvernement malien. Troisième volet donc, les violences au nord menacent-elles la paix au Mali? Je vous le rappelle, nous étions avec Boubacar Touré du RPM et Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara a été à la technique, Ségou Gadjigo a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.